Les conséquences en France de la crise du coronavirus, le gouvernement demande au groupe automobile PSA de renoncer à faire venir des ouvriers polonais.
Et oui, c'était le projet de la direction de PSA pour renforcer ses équipes du site d'Ordin, c'est dans le Nord. Consigne du gouvernement, privilégier l'embauche d'intérimaires. Reprise économique et incertitude, c'est l'eau de toutes les entreprises depuis la fin du confinement et notamment chez le leader mondial du ski, Salomon, dont le siège social est basé en Haute-Savoie. L'année 2020 sera difficile, on le sait, mais tout n'est pas négatif pour la marque française qui se fait une place dans le milieu de la course à pied. Reportage Annecy, signé Jérôme Val.
Le siège de Salomon, baptisé Annecy Design Center, tourne au ralenti, les bureaux sont quasiment vides. Nous sommes dans l'atelier où d'ordinaire sont créés les prototypes de chaussures de ski, par exemple. Depuis plus de deux mois, on y fabrique des masques.
Un peu plus de 1200 par jour.
Jean-Noël Thévenoux en est le responsable.
Je dirais qu'aujourd'hui, on a repris 20% d'activité normale. Oui, c'est des mois de perdu. Oui.
Des mois pendant lesquels la recherche sur les produits a été stoppée. Benjamin Hédan est le directeur marketing de la marque.
On a dû arrêter certains projets. On sait qu'on les reprendra plus tard et on décale d'un an la commercialisation de ces produits. Quoi.
Le leader mondial du ski racheté l'année dernière par un groupe chinois, c'est déjà que 2020 est une année à oublier, même si elle devrait être moins pire que prévu, explique le vice-président de Salomon, Éric Pensier.
La bataille, c'est plus de limiter cette décroissance et on voit aujourd'hui que on craignait peut-être d'avoir des décroissances à deux chiffres. On voit qu'on va plutôt gérer quelque chose à un chiffre, mais sur le moyen long terme, j'ai aucun doute, moi, que l'activité running, mais au sens plus large, les activités sportives vont rester au cœur des préoccupations de nos consommateurs dans le monde.
Le premier marché de Salomon avant la France, ce sont les États-Unis où la situation économique est incertaine, mais même là-bas, les signes sont plutôt encourageants, selon Éric Pensier.
C'est les premiers qui sont en train de parler d'une décroissance bien inférieure à ce qu'ils avaient prévu. C'est-à-dire que ça va faire partie pour nous des marchés qui vont nous tirer en locomotive pour réduire l'impact de la crise, étonnamment.
À la lumière de cette crise, Salomon compte aussi accélérer la relocalisation d'une partie de sa production.
Jérôme Val. Cette mort, des dizaines de blessés, 7 ans plus tard, on apprend qu'il y aura un procès l'année prochaine sur la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. La SNCF et un cheminot renvoyés devant la justice. Cet agent, aujourd'hui âgé de 31 ans, était à la tête d'une brigade chargée de l'inspection des voies au moment du déraillement. Renvoi de la justice injuste, selon le syndicat Sudrail et son secrétaire fédéral Éric Meyer.
Nous, ce qu'on peut déplorer, c'est qu'on est allé chercher le bouc émissaire. Alors que ces défauts de maintenance étaient vraiment le résultant d'une politique qui allait vers le tout TGV.
Vous nous dites que c'est Guillaume Pépi qui devrait être renvoyé en correctionnel ?
Bien sûr. Nous, on pense que pour cet accident-là, c'est les deux présidents de l'époque, de SNCF Réseau et de SNCF, dont Guillaume Pépi, qui aurait dû être renvoyé. D'ailleurs, il y a un détail intéressant, hein, c'est que suite à l'accident, une des premières mesures qui a été prise par Guillaume Pépi, c'est de modifier la chaîne de responsabilité, rendant impossible la possibilité pour lui et pour le président de SNCF Réseau d'être inquiété si d'autres accidents similaires venaient à se reproduire.
Des propos recueillis par Olivier Delagarde. 4 à 5 heures d'orage avec des vents violents. Pas de blessés dans le Gard, mais de gros dégâts. Le département était en vigilance orange. Près de Valleurogue, une route départementale s'est effondrée. Deux hameaux désormais totalement isolés. Aucun véhicule ne peut plus passer. Le réseau d'assainissement endommagé, tout comme les cultures en terrasse dévastées, notamment les oignons nouvellement plantés, déplore Christophe Boisson. C'est le maire de Saint-André-de-Magencoul.
Comme la végétation en ce moment est en plein boom, il y a beaucoup d'embâcles qui se sont mis dans les ruisseaux, ce qui a fait déborder un peu tous les ruisseaux un peu partout et des routes départementales ont été dégradées, même emportées carrément à certains endroits. Il y a eu beaucoup de dégâts dans les cultures, surtout les cultures d'oignons. Comme c'est des cultures en terrasse, c'est les terrasses qui ont été abîmées et les oignons qui ont été plantés depuis très peu de temps ont été déracinés ou les terrasses ont cédé et tout est parti, quoi. On connaît les orages et les épisodes saisonnels en période d'automne et non pas en période de printemps. Et la végétation n'est pas du tout la même. Donc, ça fait pas le même effet dans des vallades, comme on dit, ou dans des gros ruisseaux et dans des rivières lorsque la végétation est en plein boom. Et je pense que c'est ce qui a accentué la chose.
Et la vigilance orange pour risque de crue est maintenue pour deux départements, Puy-de-Dôme et Haute-Loire. On fait le point après ce journal avec Météo France.
La dernière page de ce journal, une flèche à reconstruire.
Oui, pas celle de Notre-Dame de Paris détruite dans l'incendie de l'année dernière, mais celle en pierre de Saint-Denis au nord de Paris. Le chantier va débuter en 2022 pour reconstruire la flèche nord de la basilique des rois de France qui avait été démontée en 1845, jamais reconstruite depuis. Le chantier sera financé par les visites et puis aussi des ateliers sont organisés tous les week-ends jusqu'en octobre. pour faire connaître les métiers des compagnons qui vont travailler à cette reconstruction. Rémi Brancato assistait à l'un d'entre eux.
Dans le jardin qui borde la basilique, deux tentes ont été installées pour les visiteurs.
Je vous propose un premier groupe qui va plutôt vers les tailleurs de pierre.
Ce sont eux qui vont fournir les pierres pour remonter la flèche qui culminait à 86 mètres.
L'idée, c'est quand même de remonter la tour comme les anciens.
On sait très bien que c'est entre de bonnes mains.
Les visiteurs comme Gérard s'initient ensuite à la forge et à la taille de pierre.
Vous venez de tailler
un visage dans la pierre.
Voilà, ce travail des cathédrales me fascine, mais c'est magnifique ce qui est fait.
Ces ateliers sont un avant-goût du chantier. Il démarre dans 2 ans et il sera financé par la billetterie Les Visiteurs, un échange utile pour Frédéric Thibault, tailleur de pierre.
Vous allez dans Paris, les chantiers, vous avez des grandes palissades, on voit très rarement les métiers. Il y a une méconnaissance totale de ces métiers-là en général. Les tailleurs de pierre, je défends les charpentiers, les couvreurs, le forgeron et tout seul, on ne fait pas de cathédrale.
Et contrairement à celui de Notre-Dame, ce chantier doit durer 10 ans, peut-être plus. L'important, c'est la pédagogie pour Benjamin Mazur, chef du projet pour l'association Suivez la Flèche.
On a la possibilité d'assister, de toucher la reconstruction de là où est né l'art gothique et là où il a été abouti. Ce qui est vachement intéressant, c'est de faire comprendre aux gens, on a beau être dans l'époque moderne, et ben pour arriver au résultat du 12e, du 13e, voire même du 19e, il faut s'appliquer et prendre son temps et s'y préparer.
Et justement, les forgerons se préparent. Ils fabriquent par exemple des outils utilisés par les tailleurs de pierre au Moyen-Âge.
Voilà, reportage signé Rémi Brancato, atelier gratuit aujourd'hui, lundi et tout le mois de juin, les vendredis, samedi et lundi, ça sera 6 euros à partir du mois de juillet. Reportage complet et tous les détails sur franceinter.fr.
C'était le journal d'Estelle Schmitt. J'ai une question. Quel temps aujourd'hui ?
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Et voici la réponse, Jean-Michel Golinski de Météo France. Jean-Michel, des orages.
Encore et toujours de l'orage dans l'air aujourd'hui sur le quart nord-ouest, du nord de la Nouvelle-Aquitaine à l'ouest de la Seine. Ils seront modérés, mais beaucoup plus marqués de la Méditerranée à l'est du Rhône, avec de fortes quantités de précipitations, notamment en PACA et sur la Corse. Dans le quart nord-est, les orages de l'après-midi vont taper plus modérément. Entre ces deux zones de temps instable, le ciel aura un aspect plus calme, du sud-ouest remontant vers le centre, la frontière belge et la haute Normandie. Les températures de la après-midi vont afficher 18 à Brest, 19 à Caen, Nantes, Limoges et Cognac, 20 à Bordeaux et à Biarritz. Il fera 24 à Paris, Dijon et Bastia, 25 à Lyon et à Marseille et 26 degrés à Lille et à Strasbourg. Et puis notez que le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire sont maintenus en vigilance crue.
Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité. Euromaster. Tous les samedis à 9h15 sur France Inter,
on n'arrête pas l'écho, l'actualité et les coulisses de l'économie.
Alexandra Ben Saïd.
Le magazine grand format à la veille de l'allocution d'Emmanuel Macron. L'État a-t-il été, jusque-là, à la hauteur du choc économique ? Ce sera le débat. Et puis notre invitée pour parler de la montée de la pauvreté, c'est la directrice France de l'ONG One et ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem.
On n'arrête pas l'écho.
Tous les samedis sur France Inter, de 9h à 11h.
L'Audi de vos rêves se trouve déjà près de chez vous. Choisissez le modèle qui vous fait rêver et profitez-en immédiatement. Audi s'engage aujourd'hui à vos côtés avec Audi pour vous. Un ensemble d'offres et de services pour vous aider à mieux repartir. En ce moment, jusqu'à 6 mois de loyer vous sont offerts sur une sélection de modèles disponibles en stock. Découvrez l'ensemble de nos engagements Audi pour vous sur Audi.fr.
Offre jusqu'à 6 mois de loyer suivant le premier versement offert. Offre LLD à particulier jusqu'au 30 juin 2020 sur 37 mois et 25 000 km par an maximum sur une sélection de véhicules en stock et si acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur Audi.fr.
S'habiller pour aller travailler. Rentrer à nouveau dans la gare. Se rasseoir dans le TER. Ces gestes simples, vous pouvez les faire sereinement. Car chaque jour, SNCF fait tout ce qu'il faut pour vous faire voyager en toute sécurité. Nous désinfectons les trains quotidiennement. Et nous nous assurons que tout le monde porte un masque en gare et pendant le trajet. SNCF, en train, tous responsables.
Dans quelques minutes, notre invité, le psychanalyste Roland Gori, qui publie « Et si l'effondrement avait déjà eu lieu » aux éditions Les Liens qui Libèrent, peut-être un livre visionnaire qu'il a écrit à la fin de l'année 2019 et qu'il a actualisé en fonction de l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Mais tout de suite, les sonorités électroniques, les nappes électroniques de Sébastien Tellier et ce titre « A Ballet ».
need to remember. Empty face, seek for the grace. She's looking at you.
Sébastien Tellier, ballet sur France Inter.
France Inter, le 6-9 du week-end, Pierre Veil.
Avec Patricia Martin, nous recevons Roland Gori. Il est psychanalyste, professeur honoraire de psychopathologie à l'université Aix-Marseille et il publie aux éditions Les Liens qui Libèrent un essai. Son titre « Et si l'effondrement avait déjà eu lieu, l'étrange défaite de nos croyances ». Roland Gori est au bout de la ligne numérique que nous avons établie parce que bien sûr on ne peut pas recevoir d'invités en ce moment dans ce studio pour raisons sanitaires. Bonjour Roland Gori.
Bonjour Pierre Veil.
Votre livre, c'est un livre érudit. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de catastrophisme éclairé et que vous avez été visionnaire? Parce que ce livre, vous l'avez terminé fin 2019, avant la crise du coronavirus, et vous l'avez actualisé avec cette pandémie et notre impréparation. Et vous pensiez déjà, fin 2019, au risque d'effondrement. Et c'est vrai que ce mot effondrement, on l'a beaucoup entendu là, au cours de l'évolution de cette crise du Covid-19.
Oui, alors je ne sais pas si le livre est visionnaire, mais disons que je mène déjà depuis un certain nombre d'années une réflexion critique sur les concepts, les catégories, les manières de penser qui organisent notre champ social. Et il me semble tout à fait évident que nous sommes, si vous voulez, hantés par des concepts, des notions qui nous proviennent du 19e siècle notamment, c'est-à-dire des concepts qui ont fondé les valeurs des sociétés thermo-industrielles. Or, il va de soi, par exemple, que la notion de progrès, elle a été démentie tout au long du XXe par les boucheries, les guerres fratricides auxquelles nous avons eu affaire, avec ce siècle de la peur dont parle Camus. Donc, il est évident, si vous voulez, que croire au progrès, comme le disait Baudelaire, la croyance au progrès est une doctrine de paresseux. Donc, il nous faut reconstruire un nouveau langage. Il nous faut reconstruire une nouvelle manière de penser, parce que nous sommes aujourd'hui situé un petit peu comme ceux que le philosophe spécialiste de Benjamin, Stéphane Moses, disait des juifs intellectuels libéraux en Allemagne. Nous sommes un petit peu comme un chien qui aurait quitté le sol des pattes arrière de la tradition, si vous voulez, juive, et sans pouvoir trouver un appui avec des pattes avant sur le sol du libéralisme. On est un peu dans cette suspension. C'est-à-dire, on a...
Oui. Roland Gori, décrivez-moi cet effondrement. C'est quoi, en fait, l'effondrement, selon vous?
L'effondrement, c'est, vous savez, en cuisine, l'effondrement, c'est vider un animal de ses tripes, vider un animal de sa substance. Donc, disons que nous fonctionnons encore avec des mots, des signifiants, comme concurrence, compétition, sélection, qui sont complètement caduques, c'est-à-dire qui nous proviennent d'un héritage, celui du darwinisme social, c'est-à-dire Spencer, parce que Darwin, lui, croyait quand même aux instincts sociaux régulateurs. Et donc, nous croyons quelque part que les premiers de cordée seront finalement sélectionnés par leur capacité de s'adapter à, si vous voulez, un développement économique et technique, ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que la notion d'adaptation est une notion qui perd le sens même de l'humain. Je veux dire par là que le progrès tel qu'il a été posé, on va dire pour aller vite, fin du 18e et tout au long du 19e et recyclé encore au 20e, le progrès est un mirage. Vous savez, il y a une phrase que j'aime bien de George Orwell qui dit « Quand on parle de progrès, je demande toujours s'il nous rend plus humains ou moins humains ». C'est-à-dire que le progrès, il y a un véritable progrès, c'est celui des techniques, c'est celui des sciences, c'est celui du développement industriel. Ça, c'est un progrès.
Roland Gori, dans votre livre, vous citez Jean-Jacques Rousseau qui disait que lorsque le rapport à la nature change, tout change. Et là, on a une potentialité autodestructrice sans limite, pour le coup.
Oui, mais Patricia Martin, comment voulez-vous que l'humain traite mieux la nature qu'il ne se traite lui-même ou qu'il ne traite les autres? C'est-à-dire que nous sommes dans une conception d'un rapport à la nature réduite à un stock d'énergie à exploiter à l'infini. Mais c'est de la même manière dont l'humain aujourd'hui se traite lorsque on lui demande justement d'être performant, concurrent, compétitif, c'est-à-dire lorsqu'on l'isole de ses semblables et qu'on l'isole sans doute de lui-même et de son histoire.
Roland Gori, vous dites dans ce livre, une chose est sûre, ce ne sera sans doute plus jamais comme avant la pandémie. Alors, qu'est-ce qui va changer?
Alors, ça, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas prophète, mais il est évident que la pandémie a mis en évidence que nos logiques de profit économique à court terme. Je fais allusion, par exemple, aux masques. C'est très clair, si vous voulez, que l'affaire des masques est là-dessus tout à fait significatif. Mais aussi, bien sûr, la fabrique des respirateurs ou bien encore des réactifs de test et autres. Il va de soi qu'on a regardé quel était le profit économique qu'on pouvait tirer à court terme, et ça c'est typique également des sociétés, des civilisations qui s'effondrent, c'est un conflit d'intérêts entre ce que décident les élites et ce qui constitue l'intérêt général. Donc on voit bien, par exemple très simple, n'est-ce pas, on voit bien comment l'économie de quelques millions, allez, on va dire, que l'État a pu réaliser en évitant le stock de 1 milliard de masques que nous connaissions il y a donc en 2010, par exemple, n'est-ce pas, cette économie à court terme, elle nous a coûté beaucoup plus cher, puisque si nous avions eu en quelque sorte les armes pour faire face à ce qu'on a appelé un peu rapidement une guerre, eh bien, nous aurions peut-être évité 2 mois de confinement et, bien sûr, toute la crise économique et financière. C'est-à-dire que je crois que, si vous voulez, on a vraiment à repenser notre manière d'être au monde, d'être avec les autres et d'entretenir un rapport avec la nature.
Repenser, mais sans faire table rase du passé. C'est-à-dire que pour que notre société tienne debout, il faut que l'autrefois rencontre le maintenant.
Alors, ça, c'est très important, parce que Martin, vous avez raison, c'est tout le défi de la modernité. C'est-à-dire, effectivement, comment pouvoir articuler à la fois le présent, le passé et l'avenir. Dans le discours progressiste, qui est souvent une propagande pour une immobilité sociale, dans un discours progressiste, tout se passe comme si l'âge d'or, le paradis perdu d'avant la chute, était situé au bout du chemin du futur. Et de l'autre côté, vous avez une pensée réactionnaire qui situe que le paradis perdu, il était bien sûr avant, et que donc, c'est le discours des clinistes, c'est le discours de c'était mieux avant. Je crois que nous avons à relever justement ce défi de la modernité, de pouvoir articuler nos régimes de temporalité. C'est pour ça que je n'aime pas, bien sûr, qu'on se cale sur l'idée d'un progrès comme étant orienté par une flèche du temps tournée, si vous voulez, vers le bonheur.
Dans ce livre, il y a aussi un appel à la vigilance face à un risque fasciste.
Oui, il est évident que il y a eu déjà d'énormes travaux là-dessus, n'est-ce pas, que si vous voulez le fascisme vient sur les ruines d'une capacité de penser. C'est-à-dire que quelque part le fascisme a un lien étroit avec une technicisation de la possibilité de penser, de parler, de vivre. Et là, ça touche un point essentiel justement concernant le défi de la modernité. C'est-à-dire que nous avons eu un développement formidable des techniques, des sciences, de l'industrie, mais il n'y a pas eu un développement moral, psychologique, culturel, à la hauteur justement de ce développement technique. Et la tentation est à partir de ce moment-là de réduire justement le vivant, que ça soit l'humain ou la nature, à une pure mécanique, même si cette mécanique aujourd'hui elle va prendre par exemple l'allure d'algorithmes ou de configurations digitales. Je crois qu'il faut reconnaître une spécificité du vivant. C'est cela qui est important, et ne pas le réduire aux mécaniques, quand bien même le mécanique nous a apporté incontestablement des conditions matérielles meilleures.
Mais le fascisme, c'est aussi une façon d'enlever à l'homme la capacité de décider.
Alors, bien sûr, vous avez parfaitement raison, mais je ne voudrais pas être trop érudit et trop pédant, mais Simone Veil a bien montré que cette capacité de penser, cette capacité de décider, elle n'était pas écrasée par le fascisme, mais c'est parce que justement il y avait une difficulté à penser et à décider que le fascisme apparaissait. Donc il ne faut pas confondre peut-être les causes et les conséquences. Et c'est la raison pour laquelle il est extrêmement important de retrouver les conditions sociales et culturelles de la pensée, de pouvoir penser le monde en dehors d'une espèce de taylorisation de l'esprit, vous voyez, qui finalement aboutit à cette cacophonie des experts que nous avons connue justement au temps de la pandémie.
Quand vous dites culturel, on peut penser à l'art. L'art rend visible ce qui existe.
L'art est extrêmement important et je suis désespéré, je dois vous le dire en toute simplicité, je suis désespéré de voir la place mineure que l'on accorde aujourd'hui aux humanités, bon, à la philosophie, à l'histoire, à la psychanalyse, à l'art, etc. Alors même que c'est peut-être là où nous avons la possibilité de saisir à tout instant quelque chose d'imprévu pour développer, si vous voulez, une véritable nouveauté. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire que nous devons faire œuvre, comme je le disais avec mes amis Charles Sylvestre et Bernard Lubin, nous devons faire œuvre d'œuvrier. Et vous en avez l'exemple au cours de la pandémie. Quand on a libéré les soignants des tutelles technico-administratives, des curatelles technico-financières, ils ont été formidables, ils ont pu faire enfin leur boulot, c'est-à-dire leur boulot à la fois de manière artisanale et artistique face à quelque chose qui était terrible au péril de leur vie.
Roland Gori, si j'ai bien lu votre livre, vous dites que finalement les collapsologues, ils sont déjà dépassés, l'effondrement que les discours apocalyptiques annoncent, il a déjà eu lieu, on y est.
Pierre Veil, vous avez très bien lu effectivement mon livre, c'est-à-dire que moi je ne me permettrai pas de dire que leur discours, si vous voulez, est dépassé. Je dis simplement leur discours est le symptôme de quelque chose, d'une maladie qui a déjà eu lieu, c'est-à-dire que nous n'avons pas aujourd'hui de nouvelles manières de penser, de parler de monde qui puissent nous permettre de faire face aux défis actuels.
Au standard, Roland Gori, les auditeurs veulent vous interroger. 01 45 24 7000. Laurent, qui est à Metz, nous écoute. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour. Toujours en direct de mon balcon ensoleillé à Metz.
Formidable. Allez-y, Laurent.
Bien, la question, c'est, je vais reformuler ma question. Est-ce que, en fait, on ne se représente pas la réalité à travers un monde médiatique et virtuel plus idéaliste que qui n'est en réalité. La réalité nous a montré que la supériorité, la France éternelle, comme dirait Monsieur Ribaudeau, ça n'existe pas. On a pu constater qu'au niveau de la santé, de l'éducation, même l'agriculture, l'Allemagne s'est organisée de telle manière, ils nous sont passés devant. Donc cette sorte de petite suprématie française, de ce petit tapis confortable sur lequel on vit de manière rassurante, a révélé qu'en fait, on n'est pas du tout un pays d'artistes hein, et de pays d'intellectuels et de gens très très autonomes. On est un pays dirigé par une administration plutôt avec des profils psychorigides. Hein, sur une structuration militaire. Hein. Le bonapartisme, c'est quoi ? C'est la centralisation, avant tout, à des buts de contrôler les individus, et pas du tout à libérer les énergies, que ce soit la création dans le domaine scientifique et tout. Il y a une forme de schizophrénie. D'ailleurs, François Zappa le disait. Hein, les Français sont fous. C'est le pire pays au monde.
Alors, sur ce constat, cette analyse de Laurent à Metz, Roland Gori.
Alors, je crois que Laurent pose de bonnes questions, mais il y en a beaucoup. Donc, je vais être obligé, bien sûr, de prendre une ou deux questions par le bout, je dirais, de ma compétence ou de ma réflexion. Si vous voulez, d'abord, sur la question de la bureaucratie, sur la question de la technocratie, il faut faire le constat assez paradoxal, stupéfiant même, inattendu d'une certaine manière, que le néolibéralisme, la nouvelle manière, si vous voulez, d'organiser le champ social par les concepts justement zombies de concurrence, compétition, etc., de sélection, le néolibéralisme a produit une espèce d'obésité administrative, d'obésité technocratique. Et si on revient à la question de la pandémie, on voit bien comment les agences diverses et variées qui ont été mises en place pour finalement introduire une dimension financière, gestionnaire, la tarification à l'activité dans les activités hospitalières, eh bien, a échoué face à l'épidémie. Et c'est quand les soignants ont pu se débarrasser, je dirais, de ce poids bureaucratique, de ce poids technocratique, qu'ils ont pu faire leur boulot. Vous voyez, ça c'est le premier point. Le deuxième point que souligne Laurent, qui me paraît extrêmement important, c'est effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'interdépendance des nations, et donc il va être extrêmement difficile, hors une souveraineté nationale ou européenne, de pouvoir faire face aux défis. Vous voyez, si on prend cet exemple très, très simple, on voit bien comment, par exemple, l'externalisation de la fabrique des masques, des réactifs, etc., je ne vais pas reprendre tout ça, bien sûr. Cette externalisation, eh bien, elle a été tout à fait catastrophique parce que face à un choc environnemental, eh bien, les nations se replient et finalement, on se trouve avec une armée désarmée, si j'ose dire, n'est-ce pas, auquel on a fourni les fusils en faisant fabriquer les cartouches à l'extérieur. Donc, il y a beaucoup de questions dans la remarque et dans les questions de Laurent.
Roland Gori, dans le titre de ce livre, « Et si l'effondrement avait déjà eu lieu ?», il y a en dessous une autre formule, « L'étrange défaite de nos croyances ». Et ça rappelle le titre d'un livre de l'historien Marc Bloch, paru en 1940, « L'étrange défaite ». Pourquoi avez-vous fait ce lien historique ?
D'abord, il ne voudra pas échapper, Pierre Veil, que j'adore Marc Bloch. Je le cite à plusieurs reprises, et pas uniquement, bien sûr, cet ouvrage. Mais cet ouvrage est formidable. Il a été écrit entre juillet 1940 et septembre 1940. Et vous le savez, Marc Bloch était un résistant, un historien, un intellectuel, un officier extrêmement courageux. Et il fait état, en pleine défaite, des raisons, justement, des causes probables qui ont conduit à ce que la France ait une guerre de retard par rapport à l'Allemagne. Et je crois que nous avons, nous, aujourd'hui, une guerre de retard par rapport aux défis de la mondialisation. C'est-à-dire que nous continuons, c'est un petit peu la thèse que je développe dans l'ouvrage, nous continuons à penser, à vivre avec ce que j'appelle des concepts ou des catégories zombies. Donc c'est en gros nous avons construit une ligne Maginot avec les modules de la compétence, de la sélection, de la production du premier de cordée et on voit bien que tout ça est à terre. Enfin regardez un point qui est quand même tout à fait extraordinaire. Vous entendez aujourd'hui parler de centaines, 460 je crois que 500 milliards, n'est-ce pas, pour remettre sur pied l'économie française et bien sûr avec un investissement et un soutien
européen. Or, on nous parlait il y a quelque temps d'un drame concernant les retraites parce qu'on aurait un déficit de 17 milliards ou un drame concernant, ouais, si vous voulez, les gilets jaunes parce qu'il fallait ajouter 10 milliards. Donc c'est pas très sérieux. Donc on voit bien là qu'on est dans une vision vraiment de myope.
Merci. Roland Gory était notre invité. Je rappelle le titre de ce livre qui vient de paraître aux éditions Les Liens qui Libèrent. Et si l'effondrement avait déjà eu lieu?
René prépare le barbecue. Il retrouve bientôt toute sa famille. Mais pour se régaler et savourer le bonheur d'être ensemble, tous vont devoir respecter une règle simple. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop.
Le virus est toujours là. Et 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 65 ans. Pour les personnes à risque, il est recommandé de limiter au maximum les contacts et de continuer à appliquer les mesures barrières. Ensemble, restons prudents.
Besoin d'aide ? 0800 130 000. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Faire ses bagages pour partir en vacances ou en week-end ? Patienter sur le quai pour prendre son train ? Placer les enfants côté fenêtre ? Ces gestes simples, vous pouvez les faire sereinement. Car chaque jour, SNCF fait tout ce qu'il faut pour vous faire voyager en toute sécurité. L'air est filtré et purifié dans nos TGV. Et nous les désinfectons avant, pendant et après votre voyage. SNCF, en train, tous responsables.
Les couleurs du ciel.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Et là, on retrouve Jean-Michel Golinski de Météo France. Jean-Michel, des orages à l'ouest et à l'est.
C'est vrai, et entre les deux, un temps plus calme, du sud-ouest au centre, la frontière belge, mais des systèmes orageux, comme on l'a dit, de part et d'autre, des orages plus marqués et plus forts, de la Méditerranée au Massif central et à l'est du Rhône, donnant de fortes quantités de précipitations, notamment sur la Corse et sur la région PACA. De l'orage également à prévoir cet après-midi de Champagne-Ardenne aux frontières du nord-est, et puis à l'ouest, de la Nouvelle-Aquitaine aux limites de la Seine, la menace orageuse va s'atténuer en fin de journée. Les températures vont évoluer entre 18 degrés sur la pointe ouest et 26 dans le nord et sur l'Alsace, en passant par 19 sur la Normandie, le Limousin et les Charentes, 22 dans le sud-ouest, 24 sur la Corse et l'Île-de-France et 25 degrés près du Rhône.
Merci Jean-Michel, il est 8h41.
France Inter, Pierre Veil. Le 6-9 du week-end.
La dernière partie du 6-9 du week-end jusqu'à 9h. Restez avec nous. Nos prochains rendez-vous dans quelques secondes, bien sûr, la revue de presse. Mais il y aura aussi disons dans 8 minutes, Classic & Co. avec Anna Sigalevitch. Bonjour Anna.
Bonjour Pierre, bonjour Patricia.
Bonjour Anna.
Au sommaire de votre rendez-vous aujourd'hui.
Au sommaire, le claveciniste Jean Rondeau et le luthiste Thomas Dunford pour leur nouvel album Barricade qui vient de paraître sur le label Erato.
À tout à l'heure, Anna. Et puis bien sûr, ensuite, comme chaque semaine, vos messages sur le répondeur de France Inter, le 01 56 40 68 68. Des messages dans lesquels vous nous racontez votre vie déconfinée, une vie qui est quand même assez perturbée. La revue de presse, c'est maintenant avec Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Pierre, bonjour Patricia.
Bonjour Frédéric.
Et bonjour à tous. Elle s'appelle Karine. Nous n'avons pas son nom de famille. Et c'est le Parisien qui nous raconte son histoire. Célibataire, sans enfant, Karine s'occupe depuis une douzaine d'années de sa mère. Atteinte de démence vasculaire. Celle-ci a 84 ans, elle ne sait plus parler, ne comprend plus les mots, ne reconnaît plus sa fille, avec qui elle a passé tout le confinement. 55 jours ensemble, 24 heures sur 24. Tout en continuant à travailler pour Karine. Enfin, en travaillant de chez elle, en télétravaillant. Et le télétravail avec une personne démente, à ses côtés, c'est très dur, confie-t-elle. Karine ne pouvait pas s'isoler dans l'appartement, sans un moment de répit, sans un moment à elle. Et je n'ai plus de patience, dit-elle. Je me rends compte que je lui parle de plus en plus mal. Un constat relevé aussi par un collectif de parents d'enfants handicapés qui a réalisé une enquête sur le sujet auprès de 500 familles concernées. Près d'un parent sur trois reconnaît, à cause de la fatigue, avoir eu pendant le confinement au moins une parole ou un geste envers son enfant handicapé qu'il regrette. parents d'enfants handicapés, enfants de parents dépendants. 8 à 11 millions de Français s'occupent d'un proche malade. Souvent, ils ont été en première ligne durant la crise sanitaire et beaucoup ont eu l'impression d'avoir été abandonnés par les pouvoirs publics parce que les soignants qui les aidaient au quotidien ont été réquisitionnés pour renforcer les équipes dans les hôpitaux. Dans le journal, certains de ces proches aidants racontent qu'ils y ont finalement laissé leur santé. Ils se disent épuisés. Karine est épuisée.
Et de son côté, le Figaro nous parle de Camille.
Et oui, les journaux ne nous donnent pas toujours les patronymes des personnes dont ils nous racontent les histoires. Là encore, il est question du confinement, mais sous un angle résolument positif. Camille a 21 ans, elle est étudiante en licence de droit et avant que surgisse la pandémie, elle avait prévu de partir 6 mois aux États-Unis pour parfaire son anglais dans un cabinet de conseil en affaires publiques. À la place, elle a décidé de s'investir à l'Ordre de Malte et pendant 8 semaines, elle a distribué des colis alimentaires aux sans-abri à Paris. C'est un phénomène qu'ont constaté beaucoup d'associations en France. Des milliers de jeunes ont choisi de consacrer cette période à aider les autres. Comme si le Covid-19 avait provoqué un déclic, témoigne un responsable de l'Ordre de Malte. Cette jeunesse, souvent pressée dans sa bulle, a vu sa vie brutalement interrompue. Elle a ouvert les yeux sur la misère dans la rue. Et pour certains, c'était surtout l'occasion de sortir des affres, de l'ennui, témoignage de Basile, tiens, un prénom, 18 ans. Moi, je me suis dit, t'es confiné, tu glandes, tu te lèves à midi et tu prends ton petit-déj à 14h, c'est le moment d'agir. Et donc, il a agi, reste à savoir combien parmi ses étudiants vont continuer ses activités de bénévolat. Ici donc de jeunes bénévoles et là des proches aidants. Un conseil de lecture, le mensuel Sciences Humaines, dont le dernier numéro est consacré au sujet « S'entraider est-il naturel ?» questionne le magazine, dossier sur l'altruisme et sur la solidarité, sur l'empathie, la bienveillance. Dire ces mots-là fait déjà du bien.
Frédéric, c'est encore un prénom qui s'affiche à la une de l'Est Éclair ce matin.
Zacharia. Avec cette banderole, justice pour Zacharia. Justice pour tous, pas de paix sans justice. Zacharia Touré est décédé le 21 février 2019 au service de réanimation de l'hôpital de Troyes. Il avait 21 ans. Depuis quelques jours, il était incarcéré à la maison d'arrêt de la ville. Il a été pris d'une crise convulsive majeure à la maison d'arrêt, puis il en a fait une deuxième à l'hôpital où l'on conduit les agents de l'administration pénitentiaire. Il se débat comme dans un état second, alors il est entravé au poignet et ses menottes sont fixées à une ceinture, après quoi, pour le calmer, on lui administre un traitement de cheval à base de neuroleptiques et de benzodiazépines. Mais comme il ne se calme pas, on alerte des fonctionnaires de police qui, par 3 fois, usent alors de leur taser. C'est le lendemain que Zacharia décède et depuis, sa famille réclame que toute la lumière soit faite sur sa mort. Hier soir, à Troyes, quelques 500 personnes ont arpenté les rues pour lui rendre hommage et réclamer la vérité, rapporte l'Est Éclair, précisant que cette manifestation survient dans un contexte mondial de défiance face aux forces de l'ordre.
Une défiance que l'on retrouve à la une de nombreux journaux.
Avec d'un côté la colère des manifestants qui défileront de nouveau ce samedi pour dénoncer les violences policières et de l'autre, la colère des policiers qui ont manifesté hier afin de dénoncer ce climat de défiance qui pèse sur leur profession avec un geste symbolique lors des rassemblements. La police jette les menottes, titre La République du Centre, tandis que Mini Libre évoque la colère bleue des policiers. Colère contre Castaner, précise Nord Littoral. Les policiers prennent leur ministre en grippe, confirme Le Progrès, d'où ce titre à la une du Télégramme. Castaner sous pression. Pour Le Parisien, il est plus fragilisé que jamais. Pour Libération, il est devenu le premier flip de France. Libération, qui propose un entretien croisé de 2 actrices, Aïssa Maïga et Adèle Haenel, engagées contre les discriminations raciales, sexistes et sociales. Toutes les deux marcheront aujourd'hui aux côtés du comité Adama Traoré, dont le nom est aujourd'hui scandé dans les manifestations contre les violences policières et le racisme dans le monde. Apparaître cet après-midi. Mais l'article est déjà en ligne. Vous découvrirez les zones d'ombre de cette affaire devenue un symbole. Le récit de l'interpellation du jeune homme à Beaumont-sur-Oise le 19 juillet 2016. Les experts médicaux se contredisent sur les causes de sa mort. Et le journal met au jour les incohérences d'un témoin clé pour l'enquête. Sur Mediapart, autre enquête. Une plongée dans la fabrique de l'impunité, c'est le titre de l'article. Pendant 6 mois, 2 journalistes ont épluché des milliers de pages et analysé un par un 65 dossiers de l'IGPN. Une analyse qui met au jour des techniques récurrentes permettant à la police des polices de blanchir massivement les forces de l'ordre, nous dit Mediapart. Enfin, dernier prénom, Djalega. C'est à lire Dans Le Parisien, l'histoire d'un incendie qui s'est déclaré dans le 14e arrondissement de Paris. Djalega est agent d'entretien, demandeur d'asile, et il n'a pas hésité à porter secours à une vieille dame alors que le feu faisait rage. J'ai retiré mon t-shirt pour éteindre les flammes dans ses cheveux. Aujourd'hui, les habitants de l'immeuble demandent sa régularisation. La solidarité, l'entraide, disions-nous.
C'était la revue de presse avec Frédéric Pommier. France Inter, il est 8h48 dans le monde de la musique. Il n'y a pas uniquement Eric Clapton, Led Zeppelin ou Bruce Springsteen. Il y a aussi la musique classique. Et ça, on le découvre, on l'apprend sur France Inter vers 9h moins le quart dans le 6-9 du week-end. Voici Classic & Co avec Anna Sigalevich. Barricade, c'est le titre de l'album pour lequel se sont unis le luthiste Thomas Dunford et le claveciniste Jean Rondeau, un disque qui vient de paraître, Anna, sur le label Erato.
Oui, Thomas Dunford et Jean Rondeau, qui sont tous les deux parmi les représentants les plus talentueux de la jeune génération passionnée par le répertoire baroque. Alors Thomas Dunford, qui a travaillé avec les pionniers du renouveau du genre, hein, comme William Christie ou Jordi Savall, considère d'ailleurs que, ayant grandi avec cette musique, il est de la responsabilité de sa génération de continuer à la faire vivre, tout en la rendant plus moderne, en montrant à quel point elle peut être accessible et combien elle peut toucher les cœurs. Alors c'est dans le baroque français du XVIIe et de la première moitié du XVIIIe siècle que nous embarquent les deux jeunes artistes à la cour de Louis XIV et de Louis XV, avec des compositeurs comme Marin Marais, Charpentier, Robert de Vizet, dont on écoute l'allemande La Royale de la suite en ré mineur, Robert de Vizet qui fut un temps le professeur de guitare du roi, ou encore, comme le titre de l'album Les Barricades l'indique, François Couperin avec les célèbres Barricades mystérieuses. Les Barricades mystérieuses de Couperin est une œuvre en forme de rondeau, hein, alternance de refrains et de couplets, comme la plupart des morceaux au programme du disque, des pièces en reprise sous forme binaire. « Nous ne cessons de jouer et de rejouer cette musique », nous disent Jean Rondeau et Thomas Dunford, « de la découvrir comme fraîche du matin et de la redécouvrir d'une nouvelle fraîcheur d'aube nouvelle ». C'est peut-être de persévérer ainsi dans cette répétition incessante qui nous permet de trouver un sens à l'obstination de la répétition. Nous nous plongeons avec délice dans cette nécessité musicale où la forme du rondeau nous conduit. Toujours une deuxième fois, on n'y échappe pas, comme s'il s'agissait de vie ou de mort pour la phrase musicale. Alors si Jean Rondeau et Thomas Dunford mènent chacun de leur côté une très belle carrière, leur plaisir de jouer ensemble est immense et se ressent très fort en effet dans l'album. Dans un entretien au New York Times, ils expliquent l'évidence de leur entente musicale depuis leur rencontre il y a 7 ans. Une entente de l'ordre de la fusion, ce qui est très rare, hein. Nous parlons la même langue, notre respiration est commune, notre dynamique aussi. Entre nous, pas besoin de mots, la musique coule de source. C'est un album plein de lumière, d'une grande vitalité, où la joie est au cœur de tout. Ils se disent d'ailleurs flibustiers de la joie, pour lequel Thomas Dunford et Jean Rondeau ont convié d'autres musiciens amis également, la gambiste Myriam Rignol, la mezzo Léa de Zandre et le baryton Marc Moyon. On les écoute tous ensemble pour finir dans un extrait des Fêtes des Baies de Rameau, le duo de l'acte 1, Je vous revois. Thank you.
Classic & Co, Anna Sigalevitch, Barricade, par le claveciniste Jean Rondeau et le luthiste Thomas Dunford. Un disque qui vient de paraître sur le label Erato. Merci Anna, à demain matin. Et merci à Anne Weinfeld pour la réalisation de cette chronique à réécouter sur franceinter.fr.
À demain.
Il est 8h53, c'est l'heure d'écouter vos messages de déconfinement. Racontez-nous comment vous vivez cette vie d'après, vos émotions, vos coups de gueule sur cette vie qui n'est pas encore comme avant. C'est le 01 56 40 68 deux fois.
Le répondeur d'Inter, 01 56 40 68 68.
Clémence, depuis Rugle en Normandie. Déconfinement, revoir les proches, mais ne pas trop s'étreindre. Beaucoup espéraient revoir la vie d'avant. Nous découvrons tous le monde d'après. Au protocole du confinement succède le temps long des procédures de déconfinement. Pour les établissements restés ouverts, nul ne vous soupçonne. Température, lavage des mains, masque et blouse, la routine désormais. Et puis il y a le retour au travail. Enfin des retrouvailles entre collègues. Le collectif se reforme. La réunion d'équipe tant attendue se tient. Un par table et tous masqués. Pas d'assiette de viennoiserie ni de paquet de bonbons partagés. Au plaisir d'être de nouveau réunis se mêle un sentiment étrange. Le combat n'est pas terminé. Nous devons conserver nos armures et rester sur le qui-vive. Reprogrammer son réveil, remettre ses chaussures de ville, porter ses vêtements de travail. Vais-je encore savoir travailler, me demande un résident. Le virus a-t-il vraiment disparu, m'interroge un autre. Non, le virus est toujours là, contenu grâce aux efforts des citoyens du monde entier. Le Covid n'est pas rentré, nous ne le laisserons pas gagner. Je suis directrice d'un foyer d'hébergement pour personnes porteuses de handicap.
Bonjour France Inter, je suis Christian des Bouches-du-Rhône. Le confinement, c'était fermer les fenêtres de sa vie qui donne sur le monde qui nous entoure. Le déconfinement, c'est réouvrir nos fenêtres et revoir ce monde. Certains nous ont dit et nous disent encore que ce monde que l'on découvre est différent de l'ancien ou le sera. C'est inévitable grâce ou à cause de cette crise du coronavirus. Mais je me demande, qu'est-ce qui peut bien faire que ceux qui profitaient grassement de l'ancien monde, des richesses, des avantages, des privilèges, qui sont ceux qui détiennent généralement aussi le pouvoir de changer les choses, décident aujourd'hui de partager leurs richesses et leurs pouvoirs? Pourquoi, en ouvrant leurs fenêtres, ces puissants, entre guillemets, vont-ils se dire « Bon, eh bien aujourd'hui, je vais modérer mon appétit, pour ne pas dire ma voracité, pour partager avec mon prochain. » Quel déclic pourrait-il provoquer cette réflexion? Je ne le sais pas. Est-ce que vous le savez, vous?
Oui, c'est Pierre. Quand le monde aura compris qu'en vitesse lumière, un mensonge te revient dans le dos, ça changera, hein?
Bonjour, c'est Lucas de Cherbourg. J'aimerais qu'on arrête de parler de monde d'avant et de monde d'après, puisqu'il n'y a aucun changement. Les habitudes ont repris très vite. Moi, je suis en vélo, et là, j'ai vécu mais du pain béni là pendant cette période, mais là, c'est reparti, les bagnoles, les queues au McDo, là, qui ne sont pas encore ouverts, hein, simplement les drives, avec des animaux qui sont nourris avec du soja, donc une viande de très mauvaise qualité. Et quand je vois toutes ces bagnoles, les unes derrière les autres, en train de faire vroom vroom pour attendre leur petite pitance standardisée et infâme, enfin bref, voilà, je suis complètement dégoûté, moi. Il n'y a pas eu de prise de conscience, je ne sais pas ce qu'il faudrait aux Français pour qu'ils comprennent qu'il faut radicalement changer d'habitude et qu'on est vraiment les 20% qui consomment 80% des ressources, qu'en 100 ans, l'équivalent de l'Afrique a été déforesté, tout ça pour notre plaisir, finalement, notre petit confort illusoire et qui mène à notre perte, en tout cas. Voilà, c'était un petit propos un petit peu moins optimiste, hein. Allez, bonne journée à tous.
Bonjour, je m'appelle Gilbert, je suis de Neuilly-Plaisance et j'ai écrit des petites nouvelles pendant ce confinement. Ça s'appelle les confinés anonymes. L'association des confinés anonymes s'était créée. On s'était rendu compte qu'au moment de la reprise, nombreux étaient ceux qui n'avaient pas repris le travail. Et quand on les appelait, ils expliquaient qu'ils n'arrivaient plus à sortir. Alors des bénévoles, psychologues, mais aussi médecins et des gens qui avaient eu du mal à sortir ont monté cette association. Il y en a même eu plusieurs, car il y avait de nombreux besoins. C'était gratuit, il suffisait de s'inscrire et on formait des groupes par vidéoconférence. Pour le moment, on ne cherchait même pas à faire retourner les gens au travail, on les aidait simplement à parler. Au revoir.
Oui, eh bien France Inter assure l'après-Covid-19 en BMW ou en Mercedes-Benz. À bientôt, au revoir.
01 56 40 68 68.
Voilà vos commentaires sur le monde d'après, c'est le répondeur de France Inter et merci à Christophe Imbert pour la réalisation de ce best-of de vos appels sur le répondeur.